Bonsoir et bienvenue pour ce débat sur l'espace mis en œuvre que vous propose la Bibliothèque publique d'information. Ce cycle a été conçu avec l'Observatoire de l'espace et je me tourne là vers Gérard Azoulay pour le remercier ainsi que ses collaborateurs et collaboratrices. Je vous invite aussi à venir assister aux prochaines rencontres qui se dérouleront le 13 et le 27 mai. Et donc, mes remerciements ne seraient pas complets si je me tourne là vers Jean-Marc Adolphe, directeur de la revue Mouvement, qui a accepté d'animer ces trois rencontres. Donc, je vous remercie de votre attention.
Bonjour à tous. Alors, voici une image satellite du Groenland qui a été prise il y a 12 ans. Enfin, ça ressemble encore à ça aujourd'hui, le Groenland. C'est un continent blanc. Seulement, le problème, c'est que ce territoire s'appelle Greenland, terre verte. Et que manifestement, le fait qu'elle ait été appelée verte pose question, puisqu'elle n'est pas verte du tout, elle est blanche. Donc elle a été appelée verte par Éric le Rouge, qui l'a conquise au Moyen-Âge, puisque ça a été En fait, ce sont les Vikings qui sont allés au Groenland et qui, en 987, par Éric le Rouge, se sont implantés, ont fondé une civilisation ici de 4 siècles et demi, qui se sont installés au Groenland. Le fait que Éric le Rouge ait appelé cette terre verte est aujourd'hui au cœur d'un débat qui divise profondément la communauté scientifique, en tous les cas la communauté des climatologues, entre d'un côté les climato-sceptiques, ceux qui pensent que le changement climatique n'est pas lié à l'activité de l'homme aujourd'hui, et ceux que je vais appeler d'un mot un peu qui n'est pas très joli, mais au moins c'est clair, on voit très bien de qui il s'agit, les réchauffistes, ceux qui pensent que le changement climatique actuel est lié à l'activité de l'homme. Et ces deux camps proposent deux visions totalement différentes du monde dans lequel nous vivons et deux visions aussi complètement différentes de l'évolution de ce monde. Et l'une des pierres d'achoppement entre ces deux camps et précisément le Groenland au Moyen-Âge, et le fait qu'Éric le Rouge ait appelé ce territoire Terre Verte, alors que ça pose question forcément, puisqu'aujourd'hui le territoire est blanc. Donc il n'y a pas 36 possibilités, soit Éric le Rouge a menti, soit il n'a pas menti. Autrement dit, soit le Groenland était vert, il y a trois hypothèses en fait. Soit le Groenland d'Éric le Rouge était vert et il avait raison, il avait donc raison de l'appeler Terre Verte. Soit le Groenland d'Éric le Rouge était blanc et dans ce cas-là, il a eu tort, complètement tort, de l'appeler Terre Verte. Évidemment, ça pose la question de pourquoi il l'appelait Terre Verte. Soit le Groenland d'Éric le Rouge était vert et blanc, comme il est aujourd'hui en fait, parce qu'aujourd'hui 3% du Groenland. Parce que je reviens à l'image précédente, en fait, faut faire attention aux images satellites parce que ce n'est pas parce que c'est blanc que c'est blanc en réalité, parce que ce sont des couleurs qui sont attribuées à des données numériques, c'est pas une photographie justement. Et on a ici attribué la couleur blanche à une donnée numérique qui était majoritaire, ce qui fait que ça donne un continent blanc, mais ça veut pas dire qu'il est blanc. En fait, il est blanc quand même. 97% du territoire est blanc et seulement 3% est vert, juste au sud-ouest ici du Groenland. Donc en fait aujourd'hui il est vert et blanc, blanc à 97%, vert à 3%. Il faudrait comparer si jamais peut-être qu'Éric le Rouge est arrivé seulement dans la portion verte et donc il a cru que c'était... Bon, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait comparer le degré de vert et le degré de blanc entre aujourd'hui et Éric le Rouge si jamais le Groenland n'était pas vert ou le Groenland... Bon, je reviens à ce que je disais. Voici les trois hypothèses. Donc, juste, on va y répondre très rapidement, et puis je vais m'arrêter là-dessus. Le Groenland d'Éric le Rouge était-il vert? S'il était vert, ça suppose que la calotte glaciaire groenlandaise aurait totalement fondu. Aujourd'hui, tous les climatologues disent que si la calotte glaciaire avait fondu, le niveau des océans aurait été élevé de plus de 7 mètres au Moyen-Âge par rapport à aujourd'hui. On n'a aucune preuve, ni archéologique, ni dans les textes, qu'au Moyen-Âge, l'océan mondial ait été plus élevé de 7 mètres. Et puis on peut prendre de très très nombreuses preuves. Enfin, moi j'en ai une qui est une preuve liée individuelle, hein, liée à ma propre histoire et géographie. C'est la petite île de Sein en Bretagne. La petite île de Sein, elle a une altitude maximale de 6 mètres. C'est-à-dire que si le Groenland avait fondu, cette île aurait été complètement sous les eaux. Eh bien, c'est pas possible, tout simplement parce que sur cette île, il y a une petite chapelle. La voici, la chapelle Saint-Corentin. Et cette chapelle, elle a été, c'est pas un très bon exemple parce que elle a été construite au XVIIe siècle, hein, alors que les Vikings étaient déjà plus au Groenland. Mais les fondations de cette chapelle ont été construites au XIe siècle. Donc, si cette chapelle a été construite au XIe siècle, c'est que l'île était émergée à ce moment-là et que donc le Groenland n'avait pas fondu. Hein, parce que ça n'a pas de sens de construire une chapelle sur une île qui n'est pas encore totalement émergée. Voilà, donc on a répondu à la première hypothèse. Deuxième hypothèse, le Groenland était-il entièrement blanc? Là, c'est totalement impossible non plus, puisqu'on a retrouvé au Groenland des réseaux d'irrigation construits par les Vikings. Et par définition, s'ils ont construit des réseaux d'irrigation, c'est que sans doute le Groenland n'était pas entièrement blanc. On ne voit pas pourquoi ils auraient construit des réseaux d'irrigation sur de la glace. Donc, troisième hypothèse, c'est que le Groenland d'Éric le Rouge était sans doute vert et blanc. Et pour comparer, donc, comme il est aujourd'hui. Alors, pour savoir si le Groenland était plus chaud ou moins chaud au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, il nous faut comparer le degré de vert ou le degré de blanc. Donc, j'ai décidé de comparer le degré de blanc et j'ai fait appel à l'Observatoire de l'espace du Centre national d'études spatiales de manière à ce qu'ils me fournissent. Parce qu'il faut comparer la localisation des glaciers à l'époque d'Éric le Rouge et la localisation des glaciers aujourd'hui. Alors, je suis parti d'aujourd'hui, c'est là où c'est vraiment le plus facile. Voici donc un glacier au Groenland, une image satellite. En fait, le Groenland a été particulièrement cartographié au moment de l'année polaire internationale et on a eu toute une série de cartographies il y a 2 ans très précises du Groenland. Donc on connaît très très bien la localisation des glaciers aujourd'hui au Groenland. Là on voit la langue glaciaire, on voit les montagnes, on voit le front glaciaire et on voit le fjord où commence à veler l'ensemble des icebergs. On le voit un petit peu mieux ici, ça c'est le glacier Jakobshavn qui est particulièrement étudié au Groenland et on voit ici la langue glaciaire, le fjord et l'ensemble des icebergs qui commencent à partir dans l'icefjord vers l'ouest du Groenland. Donc on connaît très très bien la localisation très précise des glaciers grâce aux images satellites. On en connaît aussi la rapidité d'écoulement, toujours ce fameux glacier Jakobshavn, particulièrement étudié aujourd'hui par la communauté scientifique. Tout ce que vous voyez en rouge là, c'est les reculs des fronts glaciaires. Il fait l'objet de très très nombreuses expériences. Il y a eu une expérience aussi très récente de la NASA qui a voulu vérifier l'existence de courants sous-glaciaires dans ce glacier et qui a jeté, parce que malheureusement les satellites ne nous permettent pas de voir ce qu'il y a sous les glaciers. Les satellites nous permettent de voir beaucoup de choses mais pas ce qui est sous la glace. Et il y aurait peut-être des écoulements sous-glaciaires, sous les glaciers, qui seraient d'une importance capitale pour comprendre les mécanismes du changement climatique dans cette région. Donc il y a des canards en plastique jaune qui ont été jetés dans une expérience de la NASA pour essayer de mesurer la vitesse d'écoulement de ces glaciers. Voilà, donc les glaciers d'aujourd'hui, on les connaît bien. Le problème, c'est les glaciers d'Éric le Rouge. Quelle était vraiment l'étendue de la calotte glaciaire d'Éric le Rouge? Nous ne le savons pas du tout aujourd'hui, tout simplement parce que Éric le Rouge et les Vikings ont totalement fui la glace. Donc si l'on doit comparer le Groenland d'Éric le Rouge et le nôtre, il faut sans doute faire appel à autre chose que les images satellites. Mais là, ça nous emmène sur un autre territoire.
Alors, merci grandement à Frédéric Ferrer, à qui j'ai demandé, un peu au pied levé, on peut le dire, voilà. de ne pas introduire cette rencontre sur l'espace, une matière contemporaine pour la création, mais de nous proposer un extrait, et pas dans les conditions de spectacle, de l'un des spectacles qui composent la série Cartographie, qui sont définis comme étant des petites conférences théâtrales sur des endroits du monde. Alors, Frédéric Ferrer appartient à la congrégation assez peu fourni en membres, il faut le dire, d'agrégés de géographie passés à la mise en scène de théâtre. Hein, vous êtes assez peu nombreux, vos banquets annuels sont...
Non, mais c'est vrai que j'ai fait aucun banquier annuel. Ouais. Il n'y a pas eu de banquier annuel, oui.
Alors, avec ces cartographies, donc c'est un petit peu le contraire, on commence par le contraire du thème, l'espace, une matière contemporaine pour la création, c'est-à-dire que là, c'est plutôt, tu utilises dans ces spectacles, des images satellites, que n'avait pas Éric Le Rouge à l'époque, pour avoir une perception de... notre espace terrestre, mais tu dis beaucoup quand même tout le travail mené par des glaciologues, climatologues.
Oui, en fait, bon, là, j'ai pas du tout. J'ai composé rapidement un petit questionnement rapide. C'est pas du tout l'extrait d'un spectacle, en fait, mais j'ai utilisé quelques documents qui sont dans deux des quatre cartographies que j'ai faites. Je travaille sur un atlas qui s'appelle l'atlas de l'Anthropocène, dans lequel il y a différentes cartographies. Et à chaque fois, les cartographies, c'est la tentative de poser la question d'un espace et poser la question d'une question, d'une hypothèse, c'est-à-dire que l'angle d'attaque est à chaque fois, il y a un territoire en profond bouleversement, une question se pose sur ce territoire ou en lien avec ce territoire, et moi je tente d'y répondre par ces cartographies en faisant une espèce de monographie très très libre de ce territoire et de la question qui est posée. Voilà. Et pour répondre à ces questions, et pour pas me tromper dans les réponses, je vais voir les scientifiques qui sont les spécialistes soit de ce territoire, soit des questions abordées, que ce soit des questions climatiques comme je viens de le faire là, ou que ce soit des questions entomologiques ou d'autres, parce que j'ai fait aussi les territoires d'un moustique. Voilà. Et donc, et c'est dans ce cadre-là que j'ai donc la question du territoire et de l'espace, elle est au cœur à chaque fois. C'est un atlas, ça s'appelle les cartographies, elle est vraiment au cœur de la problématique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait appel à plusieurs reprises à l'Observatoire de l'espace du CNES, puisque j'avais besoin, y compris dans la cartographie sur le moustique, où finalement il n'y a pas de documents. Il n'y a pas d'images satellites qui sont utilisées dans cette cartographie. Et pourtant, en travaillant sur ce moustique, à un moment donné, je prends connaissance sur Internet, tout simplement, d'une recherche qui est menée, d'un programme qui existe pour améliorer la prévention contre les risques de dengue et de chikungunya et en Afrique et en Europe. Et ce programme met en jeu de la télé-épidémiologie par l'intervention d'images satellites qui seraient des images prédictives de risques dans certains endroits. Donc même au moment où je pensais ne pas du tout faire appel à l'Observatoire de l'espace du CNES, finalement, il est venu, les satellites sont venus à moi au moment où je travaillais sur Aedes albopictus, ce moustique tigre là qui se répand un petit peu partout. Et en fait, j'ai utilisé. Donc là, je vais. Le PowerPoint va peut-être montrer des documents qui n'ont pas grand rapport tout de suite avec le moustique tigre. Mais voici la carte qui m'a été fournie par l'Observatoire de l'espace, qui est la carte de Dakar, et qui est une carte en fait qui présente les risques aujourd'hui, les risques majeurs dans la ville de Dakar, l'endroit où les risques sont les plus forts d'attraper le paludisme. Et cette carte, c'est une carte qui est le résultat d'un travail de terrain et d'imagerie satellitaire. Et en fait, cette carte, moi, je l'ai utilisée a posteriori dans mes déplacements à Dakar, quand je préparais mon spectacle, pas mon spectacle, mais quand je cherchais où il y avait le plus de moustiques tigres, j'avais rencontré deux entomologistes qui m'avaient dit que c'était à peu près les mêmes gîtes que les anopheles pour le paludisme. Et donc, je voulais faire une expérience dans le quartier où il y avait le plus de chances de l'attraper. Et donc, c'était ces quartiers-là, en rouge, là, qui me signifiaient les endroits où manifestement, il y avait plus de 400 piqûres par nuit. Et donc, c'était les endroits où on risquait le plus d'attraper, à ce moment-là, les virus ou les parasites. Donc l'image, elle m'a permis de construire mon mon voyage dans Dakar, de rue en rue, d'espace en espace, sur un scooter, pour aller dans les endroits précis et pour chercher les gîtes, en fait. Je voulais voir comment les gîtes, où étaient les gîtes. Et donc, pour la petite histoire, c'est une carte qui a été à l'origine demandée par l'armée française pour ses soldats, pour connaître où les risques étaient les plus forts. Voilà, et puis à d'autres moments, et sinon évidemment pour la cartographie, parce que j'ai fait une cartographie sur le Groenland et sur la question que pose Éric Le Rouge, là j'ai fait appel vraiment aux images satellites qui m'ont été transmises par l'Observatoire de l'espace. Voilà.
Alors je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure dans la discussion entre nous de parler de ces rapports multiples entre artistes et scientifiques. Juste une petite question comme ça, indiscrète, mais comme entre nous, avant de passer la parole à Gérard Azoulay. Ces petits canards jaunes en plastique donc, qui ont donné le titre à un spectacle, oui. À la recherche des canards perdus, oui. À partir duquel toute une fiction est construite, ces 90 canards jaunes en plastique qui auraient été lâchés par la NASA, ils ont vraiment existé ou c'est une invention d'artiste ?
Ah non, ils ont vraiment existé. Alors là, c'est un vrai problème, ça, parce que ça m'obsède depuis 4 ans. Non, ils ont vraiment existé. Ils ont vraiment été perdus par la NASA dans ce glacier. Et il est vraiment important aujourd'hui de savoir où ils peuvent être. Parce qu'en fonction de leur localisation, s'ils sont encore dans le glacier ou s'ils sont déjà sortis du glacier, on a des scénarios totalement différents aujourd'hui de l'évolution et peut-être de l'existence ou non, validée ou non, de l'existence de courants sous-glaciaires, sous les glaciers, mais aussi peut-être, s'ils sont déjà sortis des glaciers, peut-être d'une nouvelle connaissance sur certains courants marins dans cette région, sur un renversement peut-être de la circulation thermohaline, etc. Donc ces canards ont été vraiment utilisés, jetés dans un glacier. Si vous me donnez 2 secondes, je vais même vous montrer l'image, le moment où on les a jetés.
Il y a même des preuves.
Oui, il y a des preuves, il y a énormément de preuves. Alors après, le problème, c'est que depuis 4 ans, on ne sait pas du tout où ils sont. Donc moi, je suis parti à leur recherche, je suis allé au Groenland les chercher, et j'en ai pas trouvé. Mais j'ai des hypothèses sur leur localisation aujourd'hui, et surtout sur le sens de cette expérience de la NASA.
Vous voyez que certains artistes sont de vrais explorateurs, chercheurs, vont donc en Afrique chercher des moustiques tigres, dans le Groenland chercher des petits canards jaunes en plastique. Est-ce que dans ce travail d'enquête, est-ce qu'on sait quel est le montant du budget de la NASA sur cette mission de recherche des canards perdus?
À mon avis, le budget de communication était plus fort que le budget de l'expérience lui-même, parce que c'est surtout, je crois, une opération de communication. Moi, je m'en suis rendu compte un peu tardivement, en fait, parce que et en même temps, par jeu, ça me faisait. C'est à la fois une vraie expérience et c'est à la fois une énorme opération de communication. Mais cette opération de communication aujourd'hui a des fins dont on pourrait se poser, on pourrait les questionner, à des fins de sensibilisation ou à des fins même stratégiques de placement dans cet endroit, de présence pour les États-Unis à cet endroit du monde qui est en train de se déglacer. J'ai perdu le début de ma phrase, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, que le fait que ce soit une opération de communication n'invalide pas le fait que ce soit une vraie expérience scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui à savoir ce qui se passe sous les glaciers. Et on pense, parce que c'est ça en fait l'origine, on pense que les glaciers, parce qu'on s'aperçoit que la glace fond beaucoup plus vite que tous les modèles prédictifs scientifiques. Et parce que en fait la plupart des modèles ne font appel que à la fonte de la glace. Or, on pense que les glaciers aujourd'hui ne feraient pas que fondre, ils seraient en train de glisser sur les continents. C'est une action mécanique, en fait. Ils seraient en train de glisser parce qu'il y a des eaux sous-glaciaires qui les emportent, comme sur une planche à savon. Donc, il y a une vraie expérience. Le voici, le canard qui est jeté. Non, toutes les balises ont été perdues, en fait. Ça, c'est le scientifique de la NASA, Alberto Béard, qui a jeté les canards au niveau du cercle polaire arctique, dans un geste un peu auguste, comme ceci, là. Aujourd'hui, on en a. Bon, voilà.
Alors, On va peut-être passer la parole à Gérard Azoulay, qui, lui aussi, d'une certaine manière, lance un peu des canards comme ça. Enfin, Gérard Azoulay, directeur de l'Observatoire de l'Espace, je dois dire, c'est un titre un peu trompeur, pas directeur, mais Observatoire de l'Espace, parce que au sein du CNES, on se dit bon, un observatoire de l'espace, un aéropage de scientifiques en plus qui ont les yeux rivés sur l'espace. Alors oui, vous avez les yeux rivés sur l'espace, mais en même temps sur l'interprétation que peuvent en faire des artistes. Au fond, l'observatoire de l'espace est une quand je disais vous lancez des petits canards en plastique, vous lancez comme ça des pistes sans savoir si elles vont disparaître ou réapparaître pour examiner peut-être autrement, différemment la question de l'espace, de ses représentations.
Disons que l'observatoire de l'espace, bien sûr, c'est une ambiguïté, mais c'est justement, c'est ça qui est aussi intéressant. L'observatoire de l'espace peut observer l'espace et aussi de l'espace observer. Donc c'était là aussi un propos fondateur de regarder aussi la Terre et tout ce qui peut s'y passer. L'observatoire de l'espace, effectivement, est au sein du CNES, donc l'Agence française de l'espace, c'est une sorte de fabrique culturelle de l'espace, donc qui, d'année en année, justement, s'intéresse, produit des expositions. Exposition de l'édition, enfin, l'édition explore tous les champs artistiques et donc, comme vient de le dire Jean-Marc Adolphe, lance des canards de temps en temps. Alors, c'était très compliqué, c'est un programme que nous avons élaboré il y a un certain temps. Donc, il s'agissait de savoir comment faire pour que l'espace ne soit pas simplement réduit, pris à sa seule dimension scientifique et technique, mais tout au contraire, puisse être un objet plus anthropologique. Puisse être saisi par d'autres pratiques, pratiques artistiques, pratiques en sciences humaines. Donc, le projet était d'inventer d'une part, je dirais, des sortes de des dispositifs transdisciplinaires qui permettent de scruter la Terre, d'abord scruter de questionner notre société même au regard de l'aventure spatiale, justement la façon dont elle a enrichi notre imaginaire, nos connaissances, et puis comment finalement elle est part intégrante de notre histoire, comme on le voit parfois surgir. D'autre part, le deuxième axe, c'était d'être finalement radicalement aux côtés de l'univers de la création. Donc, de se dire que là, que l'espace, il avait aussi recelé à la fois peut-être un patrimoine qui était intéressant à regarder, une matière qui pouvait susciter des créations, et puis aussi était un milieu auquel se confronter. Alors, avec peut-être ces trois points, ça donne l'idée des trois rencontres de la BPI qui ont eu lieu, dont la première a lieu ce soir. Et donc, c'est ce qui nous a guidés dans la construction, finalement, de ces rencontres quand nous avons discuté avec la BPI. C'est, voilà là où se nouent peut-être les choses, et que c'est peut-être cela qu'on avait envie d'explorer avec un grand nombre d'artistes ou d'auteurs que nous accompagnons, avec qui on a un compagnonnage depuis plusieurs années, et donc de les partager avec vous. Donc voilà un petit peu notre première et ce soir notre première rencontre sur une matière contemporaine pour la création. C'est ça appuie beaucoup sur un dispositif de que nous avons mis en place de résidence et d'immersion, comme nous appelons, qui permet des artistes de peut-être pénétrer dans des lieux où on ne pénètre pas habituellement, ou avoir accès à des corpus qui sont ou des éléments documentaires qui ne sont pas si facilement accessible, ou même dont on ignore parfois l'existence, tout simplement. Donc c'est aussi ce dialogue, c'est notre canard à nous, c'est ce dialogue qui nous amuse.
Alors effectivement, l'espace, une matière pour la création, c'est l'objet de ces trois rencontres ici à la BPI, avec la BPI. Il y a des artistes, bon, pour qui on vient de le voir avec Frédéric Ferrer à l'instant, pour qui l'espace, en tout cas les technologies liées à l'espace font déjà partie prenante d'un travail artistique engagé depuis plusieurs années. Et puis parfois vous sollicitez ou vous suscitez des rencontres, vous suscitez des initiatives, des démarches, notamment dans le cadre du festival. Enfin, le festival Sidération est une des fenêtres où l'on peut, où le public peut assister à certains de ces travaux. Donc c'est effectivement, vous êtes un incubateur de projets artistiques et culturels qui peut-être n'auraient pas vu le jour sinon.
Oui, on fait une sorte de ferment, dirais-je, peut-être. Et ce qui, en fait, notre position singulière vient du fait qu'on se situe finalement à l'intérieur, dans quelque sorte, d'un établissement public et scientifique. Donc, ça permet aussi de donner un accès peut-être plus, de proposer une matière finalement plus originale, en quelque sorte. Parce que, bien évidemment, d'autres artistes, enfin, des artistes s'intéressent à l'espace ou des auteurs par ailleurs. Mais peut-être ce que nous avons construit l'année dernière, c'est ce dispositif qui permet justement d'aller dans des chemins un peu plus méconnus. Donc, si je évoque certaines discussions qu'on a eues avec plusieurs artistes, à chaque fois, c'était ça qui nous intéresse. C'était pas d'être un centre de ressources, comme on dit, mais au contraire, rentrer en dialogue, comme là vient de le dire Frédéric Ferrer, quand il parlait finalement des moustiques, nous trouver au détour d'un chemin où nous ne sommes pas attendus, quand on parlait des moustiques, et que finalement, là, d'un coup, oui, là aussi, on a un matériau étonnant qui peut justement rentrer dans son projet de création. Le festival Sidération, effectivement, est en quelque sorte un peu l'aboutissement, un des aboutissements de tous les projets de création, de projets d'accompagnement que nous menons avec des artistes et qui peuvent être très, très variés. Puis c'est dans le domaine des résidences, on le verra peut-être dans la deuxième rencontre, on a des artistes ou des auteurs qui peuvent se confronter au milieu dans l'Airbus 0G, au milieu spatial et... ou d'autres qui peuvent, je crois que nous en parlerons peut-être, on va en parler tout de suite après avec Eric Cordier, même des fois au sol, trouver une matière, c'est ça qui nous intéresse, une matière originale qui témoigne de l'espace. En fait, c'est aussi, en quelque sorte, ne pas s'enfermer dans cette image convenue de l'espace, que l'espace est simplement un objet contemplatif, enfin, c'est quelque chose qui nous est extérieur, que l'on regarde, en fait, une sorte de vision un peu 19e-miste, et ce qui nous intéresse, c'est au contraire, c'est cette idée l'espace, nous habitons l'espace, qu'il est déjà près de nous, ce n'est pas un consubstantiel.
Alors, Eric Cordier, avant que l'on ait tout de suite une illustration sonore, je ne sais pas si ça se dit, une illustration sonore, mais oui. Donc, tout à l'heure, je disais avec Frédéric Ferrer qu'il appartenait à une congrégation très peu fournie, celle des agrégés de géographie passés à la mise en scène. Vous appartenez à une congrégation qui n'est guère plus fournie, qui est, si j'en crois votre CV trouvé sur Internet, celle des titulaires d'un doctorat en sciences religieuses passé à la musique électroacoustique. Là, c'est pareil, vos banquets annuels sont...
Non, mais ça s'est fait en même temps. C'est...
Ah bon? Et bon, ça c'était voilà pour la petite blague ou plaisanterie, mais ça signale, peut-être on va revenir après que les parcours, enfin les origines même artistiques,
en fait,
sont extrêmement intéressantes.
C'est plutôt ethnologie et le fait d'aller dans des endroits scientifiques et d'aller voir comment les gens travaillent et ce qui s'y passe, c'est vraiment très très proche finalement. Donc c'est moyen jeu de ping-pong entre ces activités-là, l'activité musicale et ethnologique qui est assez importante.
Et alors, de la même manière, dans votre travail de composition et de musique électroacoustique, vous avez joué avec beaucoup d'improvisateurs, d'instrumentistes, etc. Mais il y a également tout un travail sur la matière sonore. Ce qui amène votre présence ici, c'est ce projet intégration. Qui n'est plus un projet puisqu'il a été réalisé, qui est le fruit d'une immersion, je ne sais pas si on peut dire cela comme ça, une plongée, est-il dit, en tout cas dans l'Institut d'astrophysique spatiale. Et Ben voilà qui est peut-être d'emblée surprenant parce que moi peut-être naïvement je sais pas, c'est vrai que lorsqu'on pense à l'espace on ne pense pas tout de suite à matière sonore, on pourra avoir l'impression que l'espace est silencieux, qu'il est dépourvu de son. Alors quel est ce, peut-être vous voulez qu'on écoute d'abord et
non,
puis
non, je préfère préfère présenter avant de faire écouter parce que oui merci donc moi mon exploration a pris place à 15 minutes en RER de Paris tout simplement à Orsay, donc l'Institut d'astrophysique spatiale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes leurs activités parce que je suis allé en fait dans un seul des labos qui est un peu le plus volumineux, mais qui est une petite partie de leur activité, qui est le labo de test et de calibration. C'est-à-dire que c'est un énorme espace dans lequel sont placées des cuves à vide. Donc on a, il faut imaginer, d'énormes cocottes minutes d'un mètre cube à une taille dans laquelle pourrait rentrer une voiture de petite taille. Et ces cuves sont des endroits où on provoque le vide pour simuler le vide sidéral. Et ensuite, on soumet tous les appareillages qu'on veut emmener dans l'espace à des tests de chaleur, de froid, de vibration, de façon à voir si tout ça va résister au travail qu'ils sont censés donner dans l'espace. Alors, ça va pas sans problème pour moi parce que donc j'arrive dans un espace qui est ce qu'on appelle une salle blanche. Donc déjà il y a des sas d'entrée, on doit se dépoussiérer soi-même, on doit se s'habiller comme un chirurgien avec une charlotte sur la tête, tout ça. C'est assez complexe et surtout d'un point de vue sonore, j'arrive dans un espace hyper bruyant, c'est-à-dire qu'on a des ventilations en permanence qui apporte un air conditionné filtré je ne sais plus à quelle fraction de micron, mais c'est extrêmement précis. Et puis il y a des gradations à l'intérieur du labo, c'est-à-dire qu'il y a la première salle, il y a la deuxième, il y a le troisième niveau, et on descend dans la taille du micron de poussière possible. Et ce qui fait qu'on a une pulsation de, imaginez une ventilation qui déconne complètement et qui fait un bruit énorme. Et moi, j'arrive avec mes micros et je dois enregistrer les choses. Et c'est quasiment impossible. C'est pas tout à fait impossible. Donc, il y a des moyens de faire des choses. Je peux prendre des petits détails, des choses comme ça. Mais le travail normal du preneur de son peut pas s'effectuer. Alors, je suis passé complètement. En gros, on peut dire que je suis dans un environnement totalement hostile à la prise de son finalement. Donc, j'ai développer une autre technique qui est tout aussi simple, c'est de capter le passage du courant dans tous les réseaux électriques de l'établissement. C'est-à-dire que une simple bobine de cuivre reliée à mes enregistreurs permet de non plus entendre du tout la vibration de l'air telle qu'on l'entend là tout de suite, mais de capter le passage du courant. Et puis, de fait, c'est un endroit hyper technologique, donc on a des choses qui sont... on a des ordinateurs qui contrôlent les appareillages, on a des sondes qui vérifient ce qui se passe à l'intérieur des cuves, on fait des tests en permanence, donc on a une énorme activité électronique qui a été ma palette, un petit peu ce que je suis venu grappiller sur place. Et ça a été tout à fait fructueux à ce niveau-là. Donc en fait, la prise de son, c'est toujours un petit peu, j'aime bien la métaphore de la chasse, c'est-à-dire qu'on va quelque part, mais on ne sait pas en général si on va trouver quelque chose. C'est aussi comme la recherche, c'est-à-dire on cherche quelque chose, mais on ne sait pas si on va trouver. Et il vaut mieux avoir plusieurs armes différentes dans sa panoplie. Et donc là, j'ai énormément travaillé sur la captation électromagnétique. Alors très simplement, d'un point de vue scientifique, l'électricité et le magnétisme, c'est la même force, donc ça se décode l'une dans l'autre, et c'est les principes de base de tous les appareils électroniques sont à partir de ces petits bobinages. Et donc je suis allé sur des différents appareils et je vais vous faire un petit peu écouter ce que j'ai décelé. Non, on ne met pas les photos. Pour... Bon, excusez-moi. Premier exemple.
Alors, on a oublié de dire, pardon, qu'il y a un petit jeu, c'est que vous devez essayer de reconnaître quel son ça correspond et que les gagnants ont le droit de revenir à la deuxième séance BPI CNES le 13 mai, qui de toute façon est en entrée libre.
Alors moi, j'ai appelé ça le grillon parce qu'il y a une sorte de pulsation, une sorte d'insecte. Si je me souviens bien, parce que là on n'entend pas en stéréo, qui est de ce côté-ci, et puis vous avez un brouhaha de ce côté-là, qui est tout simplement du parasite indistinct. Et de ce côté-là, donc vous avez eu cette pulsation rythmique qui est tout simplement un processeur d'ordinateur en veille qui attend, parce qu'en fait j'étais sur une cuve où il ne se passait rien, mais l'ordinateur est là en veille, il fonctionne. Pas de façon hyper pas soutenue du tout. Et voilà, j'ai cette pulsation que je connaissais déjà par ailleurs, mais qui me paraît tout à fait intéressante. Je vais passer à un deuxième exemple. Alors en fait, là, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu banal, parce que c'est vrai qu'on aurait pu l'avoir ici ou chez soi. C'est pas absolument caractéristique de l'Institut d'Astrophysique physique spatiale, mais ça m'intéresse aussi, et je veux bien en reparler après. Alors ça, à l'opposé, c'est assez peu banal et pour moi, ça a été le plus beau son que j'ai pu capter sur place. J'ai appelé ça un petit peu les pas dans la neige parce que c'est vraiment ce que ça m'évoque, ces fréquences graves et puis ces froissements. Alors en fait, je suis en train de... J'ai ma bobine dans la main qui est en cuivre. Et puis, je me déplace contre une sonde, alors j'ai le nom précis, la sonde PT-872, parce que tout est étiqueté à l'intérieur de ce laboratoire, qui est une jauge de pression donc, qui étudie si on est proche, à quel degré de vide on est à l'intérieur de la cuve. Et en fait, prenons, si le micro est la sonde, je bouge le... ma bobine de cuivre, et en fait, je déviais. C'est-à-dire que je sentais comme un aimant, alors que je ne tiens pas de fer, j'ai juste ma bobine électrique, et ça, j'ai fait 10 000 enregistrements de cette façon-là, j'ai jamais eu une sensation physique en retour de mon enregistrement. Et en discutant avec les techniciens m'ont dit « Oui, nous, on a des graves problèmes avec ces sondes quand on veut les renvoyer chez le fournisseur, parce que quand on en met deux l'une à côté de l'autre, elles se repoussent, elles s'attirent comme des aimants, parce qu'en fait, elles ont des aimants surpuissants. Donc ce que vous avez entendu, c'est sans doute le frottement du magnétisme des aimants surpuissants de la sonde contre chaque spire de mon ressort, comme ça, à chaque mouvement. Et donc Là, je suis dans une prise de son qui commence un petit peu, qui n'est pas neutre non plus, parce que ce mouvement, c'est moi qui bouge par rapport à l'objet. Parce que si je ne bouge pas, en fait, il ne se passe pas grand-chose, presque rien. Donc là, je frôle un champ magnétique. Alors autant tout à l'heure on était dans le décalage avec ces sons de pas dans la neige, là autant celui-ci lui m'évoque le glissement dans l'espace, quelque chose de propre au cliché sidéral, voilà. Et ça c'est un transcodeur analogique digital sur une pompe à vide. Donc en fait, je suis pas rentré assez dans les détails pour savoir si c'est ce qui contrôle la pompe ou si ce qui ou l'inverse, ou si c'est le résultat du travail de la pompe. Mais voilà, donc on a là un objet absolument caractéristique du lieu qui, ça devient intéressant, qui m'évoque totalement le glissement d'un engin spatial dans l'espace.
Mais on est d'accord que ce sont des sons que les techniciens, les astrophysiciens qui travaillent là n'entendent pas. Ce sont des sons que chercher.
Absolument, personne ne les entend. Il faut avoir ce type de capteur. Quoique, à l'intérieur même du labo, dans une autre branche, une équipe est complètement spécialisée dans ces capteurs et essaye de travailler, ils travaillent sur la tridimensionnalité des champs magnétiques pour étudier les flux magnétiques spatiaux.
Ça, j'ai trouvé, c'est un chercheur qui a oublié d'éteindre son portable.
Pas tout à fait. Alors, ça, en fait, c'est autre chose qui n'est pas absolument caractéristique de l'Institut d'astrophysique spatiale, mais qui en donne la dimension. C'est-à-dire qu'on est sur la cuve Jupiter, qui est donc celle qui peut contenir une voiture, pour refermer le couvercle, est grand comme la moitié de la voiture, enfin peut contenir la moitié de la voiture. C'est sur des rails. L'opérateur, c'est tellement gigantesque que c'est à l'intérieur d'une jupe, justement, pour ces problèmes de poussière. Donc c'est un objet de 10 mètres de côté à peu près. Donc tout opérateur ne peut pas voir l'entièreté de l'espace. Donc en fait, ce sont simplement des détecteurs de mouvement qui évitent que quelqu'un d'autre se fasse écraser par l'immensité de la chose en train de se déplacer. Et moi, je suis entre deux détecteurs. Et c'est ma présence qui est détectée par la machine. Et dans la deuxième partie, je remets un petit peu. Là, c'est assez stable. Je ne bouge pas. Et là, ça s'excite beaucoup plus parce que ça détecte ma présence des deux côtés. Et bon, je suis un petit peu embêté parce que ici, j'ai que du mono, mais vous entendez quelque chose de beaucoup plus varié en stéréo de votre côté. Et donc là, je suis toujours dans un processus où je fais de la prise de son. mais en même temps, mon mouvement, ma présence elle-même interagit avec ce que j'enregistre. Et finalement, les objets sonores de l'IAS deviennent des instruments dont je joue pour produire une musique. Et ça, c'est un petit peu mon école ou ma caractéristique, c'est d'être un peu du côté de la musique concrète, de rechercher les sons les plus riches au départ, afin de ne pas les retraiter dans un second temps pour les amener à ce qu'on souhaite, mais c'est de chercher des couleurs, des variations, des choses différentes. Alors, en présentant tout ça, je dis il y a des choses qui ne sont pas absolument caractéristiques du lieu, mais je pense que, j'en ai des dizaines comme ça, c'est quand même l'ensemble de l'accumulation de tous ces éléments. Parce que je me souviens que dernièrement, on a eu une question sur le gaz, les choses comme ça. Et en quoi est-il pertinent d'aller dans un endroit comme ça? Mais en fait, c'est un petit peu comme dans chaque expérience, c'est la somme de toutes les informations que vous recueillez qui va vous donner le souvenir, la photographie de l'élément dans lequel vous êtes présent. Et voilà, je travaille de cette façon-là.
Alors, juste une question pour finir pour le moment. À partir de ces matériaux sonores, vous avez créé une composition, en tout cas une étape de composition électroacoustique donnée, je crois, lors du dernier festival Sidération, ou le précédent même, que vous avez titré Intégration. Pourquoi ce titre d'intégration ?
Ouais, c'est très simple. C'était l'opération principale qui avait lieu dans ce laboratoire. On appelle le moment où on rentre les objets à tester à l'intérieur des cuves, l'intégration. Et c'est un moment qui est assez complexe, assez long, parce qu'à la fois, on pose plein de sondes sur l'objet à tester, on le relie à des circuits d'azote pour le refroidir, à des résistances pour le réchauffer. Et c'est toute une opération assez longue qui entend l'opération principale. Après, ce n'est pas le moment tout à fait du... Enfin, après, suivre les tests.
Intégration est un mot central dans l'univers spatial. On ne s'arrête pas d'intégrer. En fait, les petits morceaux vont dans les gros morceaux et ainsi de suite pour fabriquer un satellite. Et donc, c'est un processus d'intégration constant. C'est en fait un assemblage constant qui va jusqu'au moment où le véhicule spatial se retrouve sur un lanceur où il est intégré dans la fusée pour partir.
Et avant qu'éventuellement il ne se désintègre dans l'espace.
Ça, c'est une voilà. Partie des aléas.
Ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. Alors. La transition va peut-être être d'autres sons, ceux de la langue. Alors, Vanina, Maestri, vous êtes, c'est toujours bizarre de dire ça, poète contemporaine, parce que poète et contemporain, mais ça veut dire simplement qu'il y a une que vous êtes dans une pratique de la langue, du langage qui est effectivement dans une dynamique d'écriture, d'oralité aussi, qui est d'une certaine manière déjà une sonorité. Et puis vous pratiquez beaucoup le cut-up, c'est-à-dire là aussi à partir de, au fond un peu comme Eric Cordier, à partir de matériaux existants que vous prélevez dans tel ou tel domaine, et bien finalement vous vous écrivez et c'est le travail que vous avez fait là particulièrement autour du projet Cosmotropos dont on va parler ensuite ici avec Perrine Gameau. Alors peut-être entrer directement dans cette lecture et puis en parler ensuite.
D'accord. Nous y voilà. Le bar de l'univers a des allées-lumière, je dis. Une destination, une réalisation, la planète Terre. Départ pour Mars, 3, 2, 1, 0. Et des gargouilles, un ange, une créature, une attente. C'est rare, c'est incontournable, c'est à des années-lumière et à des kilomètres à la ronde, normal. On est suspendu, mais c'est pas compliqué, à 4461 kilomètres du pôle Nord, à 5541 kilomètres de l'équateur. C'est orienté, c'est regardez, vous verrez une petite étoile au fond d'un trou noir. J'ai pris le temps sous la neige, j'ai recadré, j'ai entouré la zone zodiacale. J'ai dominé Céleste, Lune plus Vénus plus Jupiter. La mécanique céleste.
Merci. Alors, le café de la fusée, l'adresse n'est pas fournie hein, dans ce cut-up.
Non.
Mais barre de l'univers, on pourrait faire un sondage, je veux dire qu'au moins 75% d'entre nous avons déjà pris au moins une fois un verre dans un bar de l'univers, sans penser que, voilà, on était là effectivement en pleine métaphore spatiale. Alors, par le petit bout du comptoir du bar de l'univers, voilà, qui introduit un petit peu tout ce projet Cosmotropos dont Vanina Maestri s'est nourri pour composer, ce texte.
En fait, j'ai prélevé des fragments. En fait, j'essaye de récupérer de l'imaginaire, du langage, autour de nous, il y a de la matière scientifique, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, quand on utilise un mot, le bar de l'univers, c'est banal, et en même temps, il y a beaucoup de choses derrière. Mais bon, qu'est-ce qu'on écoute quand on entend ces termes-là, ces termes scientifiques? Je ne sais pas, ça renvoie à une histoire personnelle, ça renvoie à ce qu'on peut savoir de l'espace, alors qu'on n'est pas scientifique. Moi, je ne suis pas du tout scientifique. Je suis complètement littéraire, donc voilà.
Ben, il peut y avoir une science du langage aussi.
Oui, voilà, peut-être, mais ce n'est pas du tout la même chose quand même.
Alors justement, ce projet Cosmotropos, là c'est vraiment on peut dire une initiative qui est entièrement redevable à l'Observatoire de l'espace, le pôle culturel du CNES. L'idée a donc été de lancer un projet photographique, un projet de collecte photographique pour réunir, alors on parlait de mots, des images, mais on va voir que dans beaucoup d'images, il y a aussi des inscriptions, il y a aussi des mots qui seraient comme un inventaire finalement des traces de l'espace sur Terre. Hein, donc ça peut être des traces géométriques, des formes, des soucoupes volantes, des formes fuséidales, je ne sais pas si ça se dit, mais aussi en effet des mots des mots de planètes, d'astres, et donc la collecte a duré 5 mois, c'est ça, Perrine Gameau, de janvier à mai 2002. Comment ? À 2012, j'ai dit 2002, pardon, oui, 2012. Cosmotropos, c'est finalement c'est devenu une base de données dont les matériaux ont été fournis par des photographes professionnels ou amateurs. Combien de personnes a priori ont participé à cette collecte?
Alors, on compte à peu près 175 personnes qui ont contribué à ce projet, effectivement, pour repréciser un petit peu le cas. Donc, c'est un appel à contribution qui a été lancé donc, pendant 5 mois et qui appelait donc, tout un chacun, professionnel ou pas, comme vous le disiez, à observer l'environnement qui l'arpente chaque jour, à la recherche de tous ces éléments qui, à son sens, en fait, pouvaient évoquer l'univers spatial de près ou de loin. Et donc le cadre du projet, donc, c'était d'abord de s'intéresser à l'espace commun qui est celui de l'espace public sur le territoire français dans un premier temps. Et donc chacun pouvait proposer sa contribution en fait, directement sur le site internet de Cosmotropos en soumettant une contribution pour un objet spécifique qui pouvait être présenté avec plusieurs images ou simplement une photographie. Et à chaque fois, effectivement, proposer une petite légende, d'abord imaginée plutôt avec un caractère plutôt informatif. Et de géolocaliser cette contribution. Donc, effectivement, le site internet maintenant restitue à peu près un millier de photographies, 463 contributions précisément, avec à chaque fois voilà, un panorama d'éléments. Donc je vais vous en présenter quelques-unes. Ça, c'était l'IS. qu'on a en fait. Parce qu'effectivement, le postulat, disons, enfin, l'idée qui a au début, qui était à l'origine de ce projet, c'était de se dire que finalement, comme on le disait, chacun a déjà été boire un verre dans le bar de l'univers. Donc on savait finalement que ces traces-là existaient. L'idée, c'était plutôt de chercher à identifier ces formes, à évaluer un peu leur nature et puis l'ampleur de cette influence dans le paysage. Et finalement, on s'est dit que les personnes qui étaient les plus à même de témoigner de ce peuplement d'objets étaient ceux qui, chaque jour, arpentaient le territoire. En se disant aussi que la multiplicité de ces regards sur un environnement commun permettrait de restituer une vision assez originale du paysage. Avec évidemment ce renversement de langage, de regard aussi, qui est les activités spatiales qui permettent d'élever notre regard vers le ciel et à l'inverse qui permettent aussi une vision en surplomb comme ça de la planète. Et là, ce qui nous intéressait pour restituer aussi une dimension sensible, c'était d'avoir le regard de tout un chacun, comme ça, une perception de l'espace sur Terre, mais à niveau d'homme, en fait. Pour vous présenter, en fait, le corpus donc, qui a été présenté sur site internet voilà, au long cours, par ordre chronologique d'arrivée des contributions, là, on fait une petite présentation telle que c'est restituée dans l'ouvrage Cosmotropos, dans lequel Vanina Maestri a présenté son texte. En fait, disons qu'il y a trois grosses parties qui ont émergé de ce corpus. Donc, la première qui concerne plutôt tous les éléments qui relèvent de l'astronomie, qui rappelle comme ça une sorte de passé de l'ère spatiale à l'époque où on ne pouvait pas encore se rendre dans l'espace, avec là une première sous-partie qui concerne les instruments, donc des cadences solaires, ici le gnomon de l'église Saint-Sulpice avec une légende du contributeur très érudite qui nous apprend beaucoup en fait sur ce lieu, sur sur le gnomon lui-même, parce que c'est la science gnomique. Là je l'ai un peu coupé parce que c'est assez long, mais du coup je vous invite à aller voir sur le site pour la lire en entier. Avec une image assez belle par ailleurs qui nous explique ces taches de lumière. Voilà, on n'est pas dans un univers aux multiples soleils, mais simplement un problème de trou dans le vitrail. Donc, on est quelque chose un peu différent. La deuxième sous-partie qui on a plus des choses commémoratives, alors beaucoup de plaques de rue à l'effigie des grandes figures de l'astronomie. Et là, cette trace-là, à laquelle on n'avait pas tellement pensé d'ailleurs en lançant le projet, où on a carrément vraiment les vraies traces du ciel, quoi, tombées sur Terre avec. Cette stèle en plein milieu d'un champ où on a retrouvé l'équivalent d'un crâne humain météorite échoué sur Terre. C'était une belle surprise. Une troisième sous-partie là, qui évoque plutôt tout ce qui est de l'ordre du vocabulaire formel, avec les nombres de sculptures trouvées dans l'art urbain en forme d'étoiles, beaucoup de choses en référence aux grands astres, etc. Et pareil avec une notice assez humoristique du contributeur avec Saturne sur le rond-point. La deuxième partie qui est là en fait vraiment le cœur du projet, qui réunit tous les éléments qui sont directement liés à l'univers spatial. Une première sous-partie qui réunit plutôt les éléments techniques. Alors là, une pièce un peu, disons, historique, où on a la coupole Saint-Omer, qui abritait pendant la Seconde Guerre mondiale les bases de lancement des fusées V2, qui étaient en fait, des missiles à destination de Londres, pour une attaque sur Londres, mais qui est aussi à l'origine des lanceurs spatiaux, comme on le voit ici, qui ont été développés par la suite dans les années 50-60. Donc c'était une espèce de traçabilité comme ça de l'avènement de l'art spatial. Quelque chose de beaucoup plus récent, ici un petit morceau de contribution assez belle aussi, une petite portion de Mars qui est une reconstitution d'un seul martien photographié à proximité du Toulouse, au CNES à Toulouse d'ailleurs. Et c'est assez j'apprécie aussi l'idée de replacer la manière dont on découvre aussi dans le paysage cette trace-là, au milieu d'une buisson d'antennes, ce petit bout de Mars qu'on peut voir comme ça en passant à vélo. Enfin, il y a beaucoup de choses finalement dans l'influence du texte. On pensait pas en fait au début que le texte prendrait une si grande ampleur, mais finalement beaucoup de choses sont logées à ce niveau-là. Là, la partie référence où les contributeurs arrivaient à pointer du doigt parfois des choses très précises, là, une double référence, puisque Vega est à la fois une étoile, mais là, cette publication qui a été faite le 13 février rappelait aussi que la veille, il y avait eu le lancement de la fusée européenne Vega. Et donc, voilà, il nous explique que dans son œil de contributeur complètement spatialisé par le projet, il a vu là une double référence et donc nous l'a soumise ici. dans la partie référence aussi, cette pièce assez étonnante qui était une sculpture a priori, et après quelques petites recherches, parce qu'on avait un système de focus aussi qui permettait de faire un petit éclairage sur des pièces en particulier du corpus, qui étaient réalisées la plupart du temps par les membres de comités d'orientation de Cosmotropos. Et là, on a découvert que cet objet-là, enfin, la boule qui est au sommet, est en fait une capsule photon, donc c'est un élément issu du spatial directement qui a été repris par un artiste pour en faire une pièce artistique. Dans le même registre, plus ou moins un peu décalé, il y a ce site d'art brut qui a été aussi photographié dans le Nord et qui est qui fait aussi d'ailleurs étrangement référence à qu'on n'est pas très loin de la coupole Saint-Omer où on a la fabrication des fusées V2, tout ça, et là on a ces fusées qui se trouvent dans ce jardin au milieu d'avions, de chars d'assaut, un endroit assez étonnant. Et la dernière partie de ce corpus central qui est le toutes les références, là, beaucoup de références à la science-fiction. Encore une fois, des références citées, nommées. La Battlestar Galactica pour cette enseigne de vêtements érotiques photographiée à Pigalle. Ou encore cette fresque d'Héro photographiée à Angoulême, où le contributeur nous décrit... Bon, dans la contribution, on voit plusieurs images avec des gros plans, etc. Mais là, on devine Goldorak, le surfeur d'argent, et puis le dernier, Superman, qui quelque part par là, a priori. Et là, on a vraiment quelque chose qui est très, presque j'ai envie de dire, symptomatique du projet, où on a deux choses qui se glissent un peu là dans l'image, mais que vraiment le texte, même s'il est très succinct, là, permet de mettre en récit. On a à la fois le Space Invaders qu'on voit dans le coin sur le fond du mur, et puis le contributeur dans son cadrage se rend compte que le personnage à vélo, d'un coup, c'est un peu le poster d'E.T. avec E.T. qui passe sur son vélo. Voilà, donc ça, c'est petit à petit, en fait, le projet s'est décalé, en fait, de l'idée d'un inventaire un peu traditionnel où en fait, on cherche à récolter un certain nombre d'objets. On s'est retrouvé finalement dans une sorte de géographie mentale, comme ça, presque de géopoétique, j'ai envie de dire. Qui permet de rassembler des éléments très divers et qui, le glissement a fini par aller au point où les objets présentés n'étaient plus du tout en lien avec le spatial et que c'était davantage par des intentions dans les images, par le biais de la représentation photographique ou par le biais du texte, qu'on avait des probations de ce genre-là. Bon, là, il se trouve que c'est le globe du futuroscope, alors bon, peut-être que c'est pas si loin que ça, mais on a vraiment une volonté du contributeur par le cadrage de simuler un coucher ou un lever de lune. De la même manière, là, on a complètement été pris à notre propre piège, puisque cette photo d'un sol quelconque, quoi, les aspérités d'un coup nous renvoient aux photos de Curiosity sur Mars, quoi. On n'est pas si loin. Donc le projet s'est petit à petit décalé dans ce sens-là, où on a des propositions très diverses, où le contributeur, pareil, nous avoue qu'il n'a photographié que des extracteurs d'air, qui d'un coup, là on peut aussi, on dirait vraiment qu'il y a un travail de post-production de l'image, qui nous fait une soucoupe volante complètement plongée dans l'univers de la science-fiction. Là aussi une image que je trouve assez belle, où on imagine presque qu'il y a eu préalablement un choix de l'orientation de cette lunette qui est a priori destinée plutôt à regarder le paysage, d'un coup pointée vers le ciel, nous en fait une navette low cost. Là aussi, pour renforcer encore le poids du texte dans ses contributions, on a là carrément, on la voit pas, puisqu'en fait, le contributeur voulait parler du Zodiac qui se trouve en fait au sommet des tours de la Défense et qui là est absolument invisible depuis le bas, donc on n'a que le pouvoir de l'imaginer. Enfin, la dernière partie de cette troisième partie effet Cosmotropos, qui a réuni des éléments issus de l'architecture, puisqu'évidemment, les piscines d'Ournesol, bien sûr, des éléments auxquels on avait pensé, ou bien des objets, des éléments comme ça, où évidemment, on suppose tous que... on peut avoir le sentiment qu'on est assez proche de l'univers de la science-fiction, mais c'est vrai, n'ayant pas vraiment d'assurance, de certitude quant à la vraie, l'idée de l'architecte dans l'idée de créer quelque chose en lien avec le spatial. Voilà, on a réuni ces contributions-là dans la partie qu'on a appelée donc effet Cosmotropos. Donc en fait, bah, à la suite de ces 5 mois d'appel à contribution, on a donc décidé de réaliser l'ouvrage ici qui s'appelle Cosmotropos, les traces de l'espace, l'empreinte de l'espace sur Terre, et qui réunit à la fois des auteurs qu'on a invités à réfléchir sur l'ensemble de ce corpus, ce que ça avait fait émerger, les modalités de l'appel à contribution qui ont donc permis cette espèce de liberté que les contributeurs ont pris et qu'on leur a laissé prendre, et qui donc voilà, permet quelques réflexions comme ça. La deuxième partie donc, qui présente le corpus selon les 3 parties que je venais de vous énoncer. Et donc la troisième partie, on a vraiment invité des auteurs comme Vanina à parcourir et à proposer des observations et à vraiment réemployer ce matériau-là comme une autre source de contribution, donc, enfin de création. Donc on est dans un espèce d'ouverture comme ça où finalement on est passé de glissement en glissement d'un matériau, enfin de l'idée de réunir un matériau documentaire qui petit à petit s'est tissé d'imaginaire et ensuite le réemploi de ce corpus un peu disparate comme ça pour de nouvelles créations.
On pourrait dire au fond de ce projet Cosmotropos que c'est une sorte de wiki encyclopédie visuelle et textuelle de représentation de traces laissées sur Terre de vision de représentation de l'espace. Alors, j'aimerais vous poser une question un petit peu indiscrète comme ça parce que pour préparer cette rencontre j'ai essayé de chercher des choses sur Internet sur les uns et les autres et je me suis aperçu que vous étiez très difficilement géolocalisable sur Internet, très secrète. Et j'ai trouvé simplement trace d'une exposition à laquelle vous avez participé en 2008, donc je crois à l'époque où vous étiez encore en études de Beaux-Arts à Grenoble, intitulée Michel de Certeau. Et je lis, l'exposition Michel de Certeau vient conclure une série curatoriale qui interrogeait les rapports entre art et économie et témoigne du goût qu'ont les artistes pour les pratiques non normées, pour les jeux improductifs. Alors j'aimerais vous poser la question suivante, est-ce que pour vous ce travail finalement de coordination du projet Cosmotropos répond d'une certaine manière à cette question, à cette dynamique d'une pratique artistique non normée, enfin curatoriale même.
La référence à De Certeau est particulièrement bienvenue puisque dans les pratiques d'espace, je crois que le projet Cosmotropos s'y loge parfaitement. Et effectivement, l'idée d'un coup que quelqu'un se ressaisisse d'une manière qu'on n'avait pas tout à fait attendue, où en plus c'était moi qui gérais la médiation, donc qui devait justifier ou non de l'intégration d'une image dans le corpus, j'ai aussi vraiment apprécié de me laisser presque, pas dominer, mais submerger par les propositions qui d'un coup me semblaient toutes justifiées et qui, notamment dans les emplois de l'image, finalement, les contributeurs là, se sont retrouvés dans une méthode où ils ont été obligés de se réapproprier un espace qui est en plus un espace mobile. Donc on imagine vraiment cette idée de pratiquer l'espace en essayant de chercher avec physiquement des moyens d'accéder à ce qu'on voulait pour faire en sorte que l'espace dise ce qu'on a envie de lui faire dire d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, je m'y suis retrouvée à plein d'égards dans la gestion de ce projet qui a pris une tournure assez, assez étonnante et très intéressante. Oui.
Alors, j'ai une question qui pourrait vous engager les uns et les autres. Alors d'abord, dans les commentaires sur ce projet Cosmotropos, j'ai relevé celui de François Cheval, conservateur en chef du musée Niépce à Chalon-sur-Saône, qui raconte notamment que, en travaillant sur l'imaginaire spatial entre 1957 et 1962, dans les revues du Parti communiste français, il a pu, entre guillemets, mesurer le décalage entre la recherche scientifique et cet imaginaire créé qui relève alors carrément de la science-fiction et de la guerre froide. Et il dit plus loin, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est le rapport au fantasmatique et à l'imaginaire. Et puis j'ai trouvé aussi une citation de Frédéric Ferrer qui dit à propos de ce travail dont on a eu écho au début, je ne cherche pas la crédibilité du propos scientifique mais la possibilité d'un autre regard. C'est-à-dire, la question que j'aimerais vous poser, c'est entre le réel, le sérieux pourrait-on dire, de la recherche scientifique et l'interprétation que vous en faites en tant qu'artiste. Comment vous-même mesurez-vous cet écart? Que cherchez-vous et quel regard finalement les scientifiques, les chercheurs peuvent poser sur les interprétations que vous livrez, qui peuvent être fantaisistes, qui peuvent être décalées, qui ont leur propre logique en tout cas.
Moi, en fait, le laboratoire de climatologie du CNRS au plateau de Saclay m'a invité pour faire ma conférence sur les Vikings. Donc moi j'étais hyper, j'avais
le trac.
Oui, j'avais. Je me disais c'est pas possible, c'est pas très sérieux ce que je fais et je vais être ridicule. Et je sais pas, faudrait leur poser la question à eux en fait. Peut-être qu'il y avait une chose. Finalement, peut-être qu'on cherche la même chose, mais par des chemins différents.
Et qui serait quoi cette même chose?
Je sais pas, quelque chose qui a une espèce de vérité ou de d'invention d'un autre monde. Voilà, je sais pas. En tous les cas, il y avait quelque chose. Donc j'ai été invité ensuite trois fois par des laboratoires de recherche pour que je fasse mes conférences, alors qu'elles sont pas du tout du niveau des laboratoires auxquels je m'étais adressé.
Éric Cordier sourit.
Oui, c'est toujours un problème en fait. On peut à la fois emprunter des éléments, on peut emprunter des dispositifs, des méthodologies, des choses comme ça, mais on a une énorme liberté d'action qui n'est pas la contrainte de la science. C'est vraiment deux points de vue totalement différents. Et malheureusement, moi, je n'ai pas encore le retour des gens auprès desquels j'ai travaillé, mais ça va venir parce que je vais y retourner.
Gérard, oui.
Juste pour compléter ce que disait Frédéric, c'est peut-être dire que c'est somme toute parler c'est peut-être pas chercher la même chose, mais c'est plusieurs facettes de la même chose. Je crois que c'est ça qui peut être intéressant à pointer entre l'univers scientifique et l'univers de la création. Et j'aurais toujours un exemple. On a aussi une revue de littérature qui s'appelle Espace, et donc des auteurs qui nous envoient des textes. Et il y avait un auteur qui était très inquiet aussi, donc il m'avait envoyé un texte, et il me demandait toujours, mais est-ce que, regarde bien quand même qu'il n'y ait pas d'erreur scientifique dans le texte que j'ai fait. Je dis, mais c'est pas très grave, il n'y a que des erreurs scientifiques dans ton texte, ça n'a aucune importance, on n'est pas dans le même champ, c'est pas la question, on n'est pas de faire un exposé scientifique. Je crois que là, on est un peu dans cette démarche. Ce qui est intéressant, c'est savoir finalement, c'est comment on se saisit de ce matériau, pas spécialement comment on va le restituer de la même façon qu'un physicien ou un biologiste ou un climatologue. Je crois que l'enjeu n'est pas le même.
Et puis, je sais pas, Frédéric Ferrer nous parlait tout à l'heure de cette expérience consistant à lancer ces petits canards jaunes Groenland, en disant ça, au fond ça relevait, je m'en suis aperçu après, aussi d'une opération de communication de la NASA. On sait bien que la recherche spatiale coûte cher, voire très cher, et que pour que les opinions publiques acceptent peut-être de consacrer de tels budgets, il faut, au-delà même de la nécessité scientifique de la démarche, apporter en plus un peu de rêve, un peu de fantaisie, ce qui transparaît un peu dans les quelques images là que l'on a montrées. C'est-à-dire c'est une matière d'inspiration très libre finalement. Bon, pas de commentaires.
Vous voulez que je réponde sur le budget? Non, je plaisante. D'abord, je suis pas sûr que ça coûte si cher que ça. Ça dépend à quoi on le compare, la recherche spatiale, mais d'abord. Ensuite, finalement, Est-ce que la recherche spatiale est si attaquée que cela, d'un point de vue finalement au regard de somme toute des différents domaines dans lesquels elle contribue, quoi. Je crois que c'est aussi ça que là, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de la du domaine de la création, mais dans les multiples champs de la société, je dirais les retombées de l'univers spatial, enfin des différents outils justement répondent à des besoins de la société ou à des besoins de connaissances. Donc je ne suis pas sûr que ce soit que les... Alors, bien sûr, il y a eu quelques opérations de communication. On a trouvé souvent de l'eau sur Mars au moment où il fallait décider des missions. Bon, d'accord. Mais après, on s'est dit, c'est peut-être pas complètement de l'eau. Mais cela dit, voilà, ça reste encore marginal.
Est-ce qu'il y a une question de Béotien, totalement naïf, mais je suis en train de lire ou de relire un petit ouvrage dont j'ai oublié d'ailleurs l'auteur, qui est intitulé L'utilité de l'inutile. Et vous le connaissez, il y a à la fin un texte d'un auteur américain datant des années 20 qui souligne toutes les recherches scientifiques absolument déterminantes qui ont été réalisées sans que il y ait eu un objectif prédéterminé, c'est-à-dire que il y a dans la part de la science aussi une notion de qui est propre aux artistes aussi d'improductivité, d'amusement, de jeu, de plaisir de la recherche pour elle-même. Est-ce que ça dans la recherche spatiale ça existe aussi ou c'est plus compliqué? C'est une question vraiment naïve.
Je sais pas. Enfin, encore une fois, je ne sais pas si ça se pose dans ces termes-là. Quoi. C'est la recherche spatiale n'a pas. Enfin, c'est un champ vaste. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a pas de productivité, enfin, de au sens strict du terme. Puisque d'abord, il y a la recherche d'un côté, la recherche fondamentale, qui est effectivement a des enjeux de connaissance. Et puis, il y a tout un domaine applicatif qui lui, a, effectivement, peut s'inscrire dans un champ économique. Quoi. Donc ça répond en fait en partie à ces contraintes.
Alors je sais pas, il nous reste peut-être une quinzaine de minutes peut-être. Donc je ne sais pas si vous avez des questions pour compléter cette rencontre. Il y a Sylvia Strick de la BPI qui là, a un micro qui peut voyager et qui voyage.
Oui, bonsoir. La Goutte. Je travaille sur l'exploitation des ressources artistiques liées à l'univers de la Lune. Donc c'est pour ça que j'étais particulièrement enchanté quand le CNES fait des collaborations, soit que ce soit avec la cantine ce week-end à travers les Space Apps Challenge ou avec Mouvement. Je trouve que c'est très important, et malgré qu'il y ait pas mal de personnes qui soient sorties de la salle, c'est pour moi, ça montre particulièrement l'intérêt qu'il y a à poser ce genre de questions et à multiplier des collaborations de ce genre. Ça me semble tout à fait pertinent que des gens sortent peut-être par un désintérêt ou par quelque chose qui ne semble pas les intéresser. En tout cas, ça me semble moins particulièrement intéressant que des gens sortent d'une salle par rapport à un sujet qui détermine par ce fait-là son importance. Je voulais poser une question à Éric Cordier et une deuxième à Frédéric Ferrer. Concernant la musique que vous faites, quand on sort de l'harmonie un peu classique et qu'on cherche à faire de la musique concrète ou de la musique contemporaine, on sort évidemment de l'émoi, on sort des élans du cœur et de ces notions-là, et souvent on se raccroche au visuel. Et en fait, je voulais vous demander si quelle était la place. Alors on parle de géolocalisation, mais quelle est la place de l'image et dans la musique que vous faites, dans le sens où il me semblerait toujours un peu déplacé qu'un son les sons que vous produisez se suffit-il à eux-mêmes, ou est-ce qu'il y a besoin de constamment, quand on aborde ce type de musique, d'avoir pour ressentir quelque chose, à la géolocaliser sur un élément, sur une matière ou sur un espace ou sur un territoire?
Alors,
En fait, il y a peut-être un biais qui a été pris par le fait que j'ai essayé de décrire les sons par des mots pour vous en parler et parler d'évocations que moi-même j'ai eues, alors qu'en fait, je travaille pas comme ça. Là, c'est parce qu'on est dans une discussion. Chacun de mes sons collectés est un élément abstrait qu'ensuite je vais composer. Et là, d'ailleurs, je vous ai pas du tout fait écouter une musique. Je vous ai fait écouter des éléments sonores qui ensuite me servent à faire une musique. Donc, on n'a pas la temporalité, on n'a pas le déroulement, on n'a pas en fait tout le on n'a pas le résultat. Et c'était pas le propos ici de donner un résultat, pour moi, un résultat artistique, mais plutôt une démarche d'expliquer où on en était, comment j'ai fait la chose, et puis vraiment le lien entre l'équipe scientifique que j'ai rencontrée et ma proposition artistique. Donc je suis pas allé totalement, ça me semblait pas être le propos aujourd'hui de présenter quelque chose d'artistique. Donc on est en deçà et donc j'en ai parlé d'une façon différente. Et puis je pense pas qu'il y ait une disparition de l'émotion dans l'art abstrait par exemple ou en dehors de l'harmonie. Et ça ça serait un autre débat je pense, mais c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à comprendre en fait.
Ok, et je vous remercie.
Vous aviez une deuxième question?
Oui, j'avais une
à la
deuxième.
De Frédéric Ferrer.
Quelle serait la place que vous accorderez au réel dans les possibilités d'évolution technologique? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on est quand la poésie côtoie le scientifique, soit on cherche des traces, un peu comme je trouve que les photographies qui ont été présentées vont un peu dans ce sens, soit on cherche des traces et on les met en valeur, soit on va partir de traces existantes ou de choses existantes et on va voir ce que on va pouvoir projeter à partir des choses qu'on a trouvées. Et ça me semble deux approches pertinentes pour aborder c'est la façon dont l'artistique peut côtoyer le scientifique. Et donc, quand on parle de science-fiction et d'anticipation, souvent, il y a un folklore de la science-fiction qui est prégnant et dont il est parfois difficile de se soustraire sans tomber dans une sorte d'évocation un peu peut-être un peu puérile dans le vocabulaire d'une matière scientifique très très élaborée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais vous voyez, quand on parle, je sais pas, on va aller sur la Lune ou on va coloniser Mars, c'est un vocabulaire qui se porte très très peu à être entendu par une communauté scientifique pour qui, si des auteurs s'expriment de cette façon-là, le propos est totalement déplacé par rapport à la complexité que peut représenter ces quelques mots que je viens de dire, par exemple. Donc, je veux dire, je sais pas si c'est vraiment une question, mais en tout cas, par rapport à la science-fiction, ce qui me semble être opposé, c'est l'anticipation, c'est-à-dire la place du réel, la place du possible dans l'évolution technologique, la façon dont on est capable de pouvoir, par un bricolage un peu technologique ou physico-chimique, de pouvoir se projeter dans des possibilités qui ne sont plus celles d'un folklore science-fictionnesque, mais bien celles d'une anticipation. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, cette différence entre science-fiction et anticipation ?
Oui, peut-être pas au même niveau, au même endroit, parce que je suis pas du tout connaisseur de la Lune et de tout ce qui a un rapport avec la Lune. Mais en effet, la question du réel, moi, je me la pose à chaque fois, puisque je prends beaucoup d'attention à ce que l'ensemble des hypothèses soient basées sur des considérations qui posent question aujourd'hui à la science. Donc j'essaye de partir de ce matériau-là et de tenter d'y répondre avec, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en prenant les chemins qui sont les miens, qui vont être différents de ceux sans doute du scientifique, mais qui sont, mais dont moi je m'attache à je fais attention à ce que l'ensemble de ces chemins soit correspondent à une forme de justesse, ou en tous les cas correspondent à une, soit le produit d'un raisonnement, quel qu'il soit, mais soit le produit d'un raisonnement, c'est-à-dire que le résultat, la fabrication onirique ou non, souvent onirique, la fabrication, elle est le résultat d'une pensée qui se veut rigoureuse et qui se veut partir du réel. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question qui était la vôtre, mais en tous les cas, je crois que toutes les constructions, enfin, les constructions oniriques, y compris peut-être pas science-fictionnelles chez moi, mais oniriques, sont construites à partir du réel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous ? Oui, monsieur.
Bonjour. On a abordé, vous avez abordé, très vite la question du schisme entre les scientifiques et les artistes, qui est un truc très intéressant et je pense au cœur de la pratique de la recherche de l'Observatoire de l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas justement dans l'espace comme environnement auquel l'homme se confronte, une façon peut-être de voir le problème différemment et de voir les scientifiques et les artistes comme un problème finalement profondément humain où chacun répond à sa façon à des questions qui sont posées vraiment véritablement à notre nature. C'est-à-dire que c'est pas des choses dont on dispose à partir du moment où il suffit de lever la tête pour voir le ciel. On est tous confrontés aux questions humaines que ça nous pose, et c'est de là assez normal de voir des gens y répondre de façon artistique avec leur pratique, parce que c'est des questions existentielles, et d'un autre côté des scientifiques qui répondent du mieux qu'ils le peuvent aussi, mais en fait finalement aux mêmes questions, pas des questions résolues par la science d'un côté et abordées par les artistes de l'autre, par exemple. Est-ce que l'espace, c'est pas justement le lieu par excellence pour résoudre ça ?
Merci pour cette question qui, je pense, est vraiment pose très bien des choses. Et je vois que Gérard Azoulay brûle de vous répondre, mais si. Non, mais avant que je me permette de faire un peu de réclame, parce que si vous n'avez pas encore, je n'ai pas d'intérêt, je vous précise tout de suite, pas de pourcentage, mais si vous n'avez pas encore acquis le dernier numéro d'Espace, édité par l'Observatoire de l'Espace, eh bien, il y a un texte magnifique de l'ami Gérard Azoulay à côté qui s'intitule « Polyphénie spatiale » et qui, je trouve, répond exactement à ce que vous venez de pointer là. C'est-à-dire qu'en effet, s'il y a bien une question, sans doute pas la seule, mais qui inquiète communément les scientifiques, les artistes et au fond les êtres humains que nous sommes tous, quelles que soient nos qualités ou nos absences de qualités, c'est bien celle de l'espace. Dans quel espace, comment l'espace est-il formé, quel est l'espace dans lequel nous vivons, enfin voilà, ce sont des questions effectivement auxquelles l'humanité n'a cessé de vouloir, de chercher à donner des réponses, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient poétiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient... Donc c'est en effet une question qui permet de réunir, je ne sais pas, parce que chacun peut avoir son approche, son langage, son vocabulaire, mais qui permet en tout cas de fédérer sans doute des questionnements communs. Les réponses ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a un questionnement qui est commun.
Oh, mais là, j'ai plus rien à dire. je voulais dire, en fait, moi, je voulais compléter aussi la réponse de Frédéric tout à l'heure aussi, encore une fois. C'est dire, et de monsieur, c'est effectivement pourquoi l'espace pourrait jouer ce rôle. C'est aussi, c'est dans la mesure où, justement, on ne considère plus que c'est une sorte de désert humain. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose de désincarné. Et d'ailleurs, je ne sais pas si finalement, on regarde, ce soir, on a tout ce dont on a parlé, tout se passe sur Terre. D'ailleurs, en fait, c'était une rencontre sur l'espace. l'espace, mais en fait tout est sur Terre, de ce que présente du travail de Frédéric, d'Eric, des photos du travail de Cosmotropos et de ce que la façon dont s'en est saisie plutôt Vanina à travers son travail littéraire. Finalement, on est bien resté sur Terre. Donc c'est effectivement cela qui peut être intéressant, c'est le détour par l'espace en fait nous conduit à peut-être permettre cela aussi de se retrouver sur Terre.
Mais je sais que depuis longtemps Eric Cordier a un projet de concert électroacoustique sur Mars, mais ça a l'air un peu compliqué à organiser, il ne trouve pas les coproducteurs, le matériel, les branchements électriques, ni le public, mais cela viendra peut-être. Voilà, bah je vous remercie peut-être pour cette première rencontre. Ah, il y avait encore une autre question, pardon. Non. Donc, je vous donne rendez-vous dès maintenant pour la seconde rencontre, le 13 mai, à 19h également. Même salle, ici, au centre Georges Pompidou. Il sera question avec la chorégraphe Kitsou Dubois et un écrivain Vincent Ravalec, qui tous les deux ont expérimenté les milieux spatiaux, en tout cas qui ont séjourné, notamment qui ont fait l'expérience de vol en apesanteur. Donc ce sera voilà, l'espace, un milieu à expérimenter. Donc là, on décollera peut-être un petit peu plus de la Terre. Donc le 13 mai à 19h, et voilà, encore merci pour votre présence et votre participation à toutes et à tous. Merci.